Vous écoutez On lit pour vous.
L'art du grand écart, une chronique de Sophie Gagnon, parue le 10 février 2025 dans Les libraires. Connaissez-vous le nouveau mot à la mode en littérature pour adolescents? Inconnu au bataillon avant ces derniers mois, du moins dans la sphère publique, le terme high-low, H-I-G-H-L-O-W, est maintenant sur toutes les lèvres et permet de mettre en lumière des collections courtes pensées pour un public plus âgé. High-low, H-I-L-O, comme l'écrivent certains, renvoie à des textes accessibles sur le plan de la langue et de la structure pour les lecteurs plus réfractaires, tout en abordant des sujets et thématiques actuels et punchés qui peuvent interpeller les adolescents. Présenté comme attrayant pour un lectorat allophone, ces récits ne lui sont pourtant pas réservés. En effet, si certains lecteurs lisent un seul type de roman, d'autres sont du genre à grappiller dans tous les styles et tous les formats au fil de leurs envies. Et ceux-là pourraient être très intéressés par Clang, une des nouveautés de la collection Micro de la courte échelle. Rédigé de main de maître par Carole Tremblay, autrice chevronnée et éditrice de la maison d'édition, Clang nous propulse dans la tête d'un adolescent sous le choc après qu'il a percuté un cycliste sur une route de campagne et a fui au lieu de porter assistance à sa victime. La plume est soutenue et nerveuse tout au long du récit, constituée de phrases courtes écrites dans une langue orale qui nous immerge dans le maelstrom de pensée du narrateur. Dès le départ, on est avec lui, valsant entre angoisse et culpabilité alors qu'il parque son char chez son grand-père et remonte peu à peu le fil des événements. Il entend en écho le clang, oui, ce bruit terrible qui vient de tout changer, mais repense aussi au party qui a précédé, cherchant un coupable sur qui rejeter la faute, quelqu'un à qui il pourrait en vouloir plutôt qu'à lui-même. Attention, le livre a beau être court, c'est le genre de récit impossible à abandonner en cours de route, tant l'écriture est dense et les émotions vives, alors que l'autrice rend les pensées du narrateur en alternance avec la description des sensations physiques de la panique, le tout dans une langue qui ne fait aucun faux pas. Pour moi, explique Carole Tremblay, le roman court est plus près de l'écriture de théâtre que de celui de l'album. On ne peut pas se permettre de temps mort. Il faut aller direct au but, vivre intensément la situation sans chercher à créer de nombreux rebondissements. Il faut choisir un angle, un sujet, une situation et l'explorer à fond. Mission accomplie pour ce livre qui, bien que bref, n'en reste pas moins percutant, notamment grâce à une finale parfaite, à la hauteur de ce qui a précédé. S'il écrit des formes courtes, telles des nouvelles dans la presse ou dans des anthologies au moins deux fois par année, comme une respiration, l'auteur français Victor Dixon raffole pour sa part des longues séries dans lesquelles il peut déplier des intrigues complexes. En tant qu'auteur, j'y trouve vraiment mon compte, parce qu'une saga permet de développer des personnages sur la durée, de les faire évoluer, grandir, changer, d'en montrer plusieurs facettes, ce dont je ne me prive pas dans mes séries. Cette forme permet aussi, un peu comme au théâtre, d'avoir des entrées et des sorties de scène. On a parfois des personnages secondaires dans un tome qui partent par les coulisses et reviennent dans un tome suivant au devant de la scène comme personnages principaux. Cette capacité de mise en scène, cette dramaturgie propre à la saga, me plaît beaucoup. Après Phobos et Vampiria, deux séries à grand succès dans lesquelles il a pu laisser son talent se déployer, l'auteur français revient cette fois avec un récit qui plonge ses racines dans l'urbex et de nombreuses légendes du monde entier dans un univers à la fois sombre et lumineux. Forcé par l'attente qui l'héberge depuis la disparition de sa mère à ramasser les objets de valeur oubliés dans le train qui la ramène de l'école tous les soirs, Lucie déniche un pendule qui changera complètement sa destinée. En effet, mettant à jour sa nature de retrouveuse, l'adolescente découvre les oubliettes, monde caché sous notre réalité, où sévissent les croque-mitaines et leurs complices. Guidée par l'intrigante Rita Perdido, Lucy comprendra que ce que l'on croit perdu ne l'est peut-être jamais vraiment. Si l'histoire est captivante dès les premières pages et que le récit se divulgue ensuite sans longueur grâce à la tension narrative qui nourrit de nombreuses trouvailles et surprises au fil des pages, la force du premier tome de « L'agence Perdido » est sans contredit l'univers de fantasy urbaine créé par Victor Dixon. Encore ici, l'auteur surdoué dans l'art de la création d'ambiances immersives explique que c'est le format de plusieurs tomes qui lui permet de creuser à fond les détails, la profondeur historique et fictionnelle d'un univers. S'il en tire un grand plaisir, ce dernier est partagé tout au long du roman par les lecteurs qui découvrent, au fil des aventures de Lucy dans les oubliettes, des lieux qui s'accordent à la personnalité des croque-mitaines qui y demeurent et dont la description parvient à susciter de multiples frissons. Ce décor n'est toutefois pas seulement de l'esbrouffe. Il ravit, certes, mais il sert aussi une intrigue brillante mettant en scène des personnages complexes dont les motivations ne sont pas tout de suite évidentes, ce qui leur permet de se dévoiler en couches au fil du livre. Lucy vient en tête, bien sûr, mais Rita Perdido ne donne pas sa place, tout comme les deux complices retrouveurs forcés de l'adolescente qui ont leurs propres soucis. Il y a, par ailleurs, un subtil équilibre dans la trame narrative entre l'action du présent et les fragments du passé qui fait que l'histoire respire et intrigue alors qu'on peut étirer le plaisir de la découverte des chapitres, le premier tome étant assez costaud, mais promettant aussi une suite tout aussi enlevante. Bref, qu'on cherche du court ou du long, si nos préférences peuvent être marquées et qu'il se révèle parfois ardu de s'extraire de sa zone de confort, laissons-nous parfois vivre nos amours littéraires en mode grand écart. Après tout, quand c'est de la qualité, le très court comme le très long peuvent susciter les mêmes plaisirs. C'était « L'art du grand écart », une chronique de Sophie Gagnon, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires.
Le commerce des logements doit être mieux encadré. Un texte de Colette Pierrot, paru le 26 juillet 2023 dans Le Devoir. La pénurie de logements abordables offerts aux ménages moins nantis laisse le marché grand ouvert au privé et à la surenchère des loyers, et le déficit d'offres n'est pas près de se résorber. Cette situation permet aux propriétaires qui se spécialisent dans le logement abordable de s'en tirer en offrant des habitations de piètre qualité que leurs locataires sont forcés d'accepter, faute d'autres possibilités. Le logement est un bien essentiel à la qualité de vie de chacun d'entre nous. Pourtant, il est peu réglementé, alors que l'hébergement hôtelier est soumis à des normes et assorti de cotes. Rien de tel n'est en place du côté du logement locatif. Et le projet de loi 31, dans ses dispositions actuelles, ne prévoit aucune mesure pour assurer l'amélioration progressive de la qualité des logements abordables. La mise en place d'un registre des loyers proposée par plusieurs acteurs du milieu, est une mesure essentielle, mais insuffisante. Des pistes complémentaires doivent être explorées. Premièrement, rendre obligatoire l'établissement d'un état des lieux à l'arrivée et au départ du locataire, partie intégrante d'un bail locatif enregistré auprès des autorités réglementaires concernées. Un tel exercice documenterait concrètement l'objet du contrat de bail et établirait la qualité relative du logement. Lors de l'état des lieux, les défaillances potentielles seraient cernées pour être corrigées ensuite, et les données recueillies grâce à une telle mesure maintenant obligatoire fournirait aux décideurs de tous les ordres de gouvernement les informations requises pour établir des politiques claires, des plans d'action ciblés et bien en évaluer les résultats. Deuxièmement, encadrer et soutenir l'entretien régulier du parc résidentiel locatif par les propriétaires du secteur privé, mais aussi des secteurs publics et associatifs. Il est désormais obligatoire pour les copropriétés divises de constituer un fonds de prévoyance pour faire face aux besoins d'entretien, de rénovation et de mise aux normes des bâtiments. Ces mêmes besoins existent dans l'immobilier locatif. L'actualité récente a d'ailleurs révélé au grand jour l'absence de prévoyance des offices municipaux d'habitation et autres instances responsables du parc de logements sociaux, qui a ainsi privé près de 3000 ménages d'un logement abordable de qualité. Le législateur ne devrait-il pas se préoccuper d'encadrer et d'encourager les bonnes pratiques de tous les propriétaires de logements locatifs, peu importe leur forme légale? Il appartient aux élus de tous les partis, ainsi qu'aux équipes des villes et du ministère québécois responsable de l'habitation, de réfléchir aux meilleures avenues à emprunter pour atteindre l'objectif désiré. Maintenir un parc locatif de qualité et accessible aux ménages à revenus modestes. L'atteinte de cet objectif pourrait prendre diverses formes. Elle pourrait par exemple découler de la mise en place d'une obligation de créer un fonds de prévoyance, assorti ou non d'une contrepartie selon la nature des travaux réalisés et l'adaptation nécessaire du parc locatif aux besoins sociaux et environnementaux du Québec. Des mesures pragmatiques comme celle-ci, faciles à mettre en place, contribueraient à améliorer la qualité du parc locatif québécois. Elles seraient complémentaires aux actions structurantes des plans d'investissement en habitation. Vu l'ampleur de la crise, on ne peut pas se permettre de les négliger. C'était « Le commerce des logements doit être mieux encadré », un texte de Colette Pierrot, paru le 26 juillet 2023 dans Le Devoir.
La désinformation au Canada, plus fréquente et dangereuse qu'on ne le croit. Un texte de Hassan Lagcha, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Il existe un nombre croissant de journalistes au Canada et à l'étranger qui font l'objet de menaces et de campagnes de salissage visant à discréditer leur travail. Les attaques personnelles sont également à la hausse en cette période où la désinformation est florissante. Pour comprendre ce phénomène et proposer des solutions, le Centre de recherche Global Reporting de l'Université de la Colombie-Britannique a proposé un projet pour donner suite à son enquête réalisée en 2022 sur les campagnes de dénigrement contre les journalistes. À la lumière du sondage effectué en 2022 sur la pratique journalistique au Canada et à l'étranger, 63% des journalistes subissent des attaques personnelles sur leur réputation au moins une fois par mois. Devant la gravité de la situation, le gouvernement fédéral a décidé de financer une vingtaine de projets à travers le pays afin de contrer le problème croissant du harcèlement des journalistes et celui de la désinformation en ligne. L'un de ces projets, réalisé par le Centre de recherche de l'UBC, sera de comparer la situation qui sévit dans les salles de nouvelles canadiennes en comparaison à celle d'autres pays. Cette démarche permettra aussi de cerner les efforts internationaux ciblant le Canada et de mettre en lumière les tendances mondiales ayant une incidence sur les médias et la démocratie au Canada. Une enquête aux résultats inquiétants. Dans son enquête de 2022, le Global Reporting Center a mis en lumière comment les attaques à la réputation des journalistes leur portent un préjudice, en plus d'être une atteinte à la liberté de la presse. Les auteurs de cette enquête estiment que les tentatives pour discréditer les journalistes sont nombreuses et bien documentées. Par contre, il existe peu de recherches sur l'impact de ces attaques sur leur réputation, leur sécurité personnelle et leur autonomie professionnelle. Au total, 645 journalistes de 87 pays ont participé à ce sondage. Outre les attaques qu'ils subissent à tous les mois, 19% ont déclaré y être confrontés quotidiennement. Fait comparatif intéressant, des sondages similaires sur les atteintes à la réputation des politiciens et des fonctionnaires publics révèlent un taux de 72%, et ce, au moins une fois par mois. S'il est certes facile de s'attaquer aux messagers plutôt qu'aux messages qu'ils communiquent, la profession de journaliste se voit exposée davantage sur les médias sociaux. Ces attaques se produisent fréquemment en ligne et peuvent inclure une série d'insultes dans les commentaires exprimés sur Twitter jusqu'aux accusations erronées dans certaines poursuites judiciaires et même lors de campagnes de salissage sophistiquées utilisant des clips vidéo fabriqués de toutes pièces. Ces campagnes nocives ne sont pas sans effet, puisqu'elles alimentent abondamment les médias sociaux. Les auteurs du sondage affirment également que ces agressions contre la pratique du journalisme peuvent expliquer un certain recul de la démocratie dans le monde. Hausse de la désinformation organisée. Par ailleurs, le professeur Chris Tenovi de l'UBC admet qu'il est essentiel d'examiner le phénomène de la désinformation et le harcèlement que subissent les journalistes et divers agents d'information sous plusieurs angles. Il fait référence notamment à l'hostilité et aux attaques qu'ont subies les communicateurs dans le secteur de la santé durant la pandémie de la COVID. Il y a également, souligne-t-il, d'autres travaux de recherche qui se poursuivent dans ce dossier, notamment sur l'usage de diverses formes d'hostilité et de harcèlement auxquelles les communicateurs en santé sont confrontés et leurs impacts. Le Canada peut-il vraiment se prémunir contre les effets nocifs des campagnes de dénigrement contre les professionnels de l'information? Selon l'expert de UBC, Chris Tenovi, le niveau d'éducation élevé des Canadiens, le degré de confiance envers les institutions démocratiques, les standards journalistiques et le travail professionnel des journalistes avantagent le Canada en comparaison à de nombreux autres pays. C'était « La désinformation au Canada, plus fréquente et dangereuse qu'on ne le croit ». Un texte de Hassan Lagsha, paru le 22 août 2023 dans le journal « La Source » de la Colombie-Britannique.
L'étrange au Québec, un texte de Marianne Duguay paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. En littérature, l'étrange se compose du réalisme magique d'Haruki Murakami et de l'imaginaire, incluant la science-fiction et la fantasy, ainsi que de l'horreur. Cependant, l'étrange peut également se définir par des histoires avec des personnages quasi irréels ou hors normes, du surnaturel ou des éléments qui flirtent avec la fantasy, sans y être complètement trempés. Au Québec, certaines auteures et certains auteurs sont réputés pour exploiter l'étrange, comme Larry Tremblay, Martine Desjardins et André A. Michaud. D'autres ont aussi fait leur incursion dans ce genre. En fait, Anne Hébert a frayé avec le surnaturel, alors que Marie-Christine Bernard a exploité une légende algonquienne. Le romancier Hugo Meunier, quant à lui, s'est promené du surnaturel à la fantasy, en passant par des personnages inusités. Auteur acclamé, Anne Hébert a publié en 1975 le roman « Les enfants du sabbat », Boréal, œuvre qui touche au surnaturel avec sœur Julie de la Trinité qui a des visions, supposément de son enfance en montagne, où rituels étranges, drogues et alcool étaient offerts par un couple charismatique et étonnant. Qui est l'homme du couple? Et pourquoi est-ce que sœur Julie semble de plus en plus obsédée et possédée par ces images et cet énigmatique personnage? Anne Hébert fait se rencontrer l'inexplicable et la réalité dans cette histoire où se confrontent le bien et le mal. Également mystérieux avec une légende algonquienne en filigrane, Paul Latouche de Marie-Christine Bernard, Stanké, raconte la réflexion de Stéphanie sur son couple au chalet de ses parents. Elle rencontre ses sympathiques voisins quelque peu étranges avec leurs proportions physiques différentes et leur capacité à résister au froid. En plus de se questionner sur sa possible sortie du placard avec sa conjointe, Stéphanie tentera d'élucider la disparition d'une jeune fille qu'elle connaît. Introspectif, surprenant et louche. Avec Le Patron et Olivia Vendetta, Stanké, l'auteur Hugo Meunier trempe dans les univers fantaisistes et les personnages particuliers. Le premier expose un face-à-face intergénérationnel entre le patron quadragénaire et ses employés milléniaux accrochés à leur cellulaire. Une série de meurtres de jeunes adultes intéresse anormalement les employés, ce qui laisse perplexe le patron très ordinaire. Plusieurs surprises, qui ne peuvent être révélées, attendent le lecteur à chaque détour. Quant au deuxième, Olivia Vendetta, il présente une série d'aventures rocambolesques d'un personnage à la limite du réel qui souhaite mettre à exécution un plan de vengeance contre ses intimidateurs de l'école secondaire. Olivia voyage, fait des rencontres avec des gens singuliers et se prépare pour son retour au pays où elle vivra sa vendetta. Troublant et déstabilisant. Pour sa part, André A. Michaud flirte avec le surnaturel et le réalisme magique dans son roman « Tempête, Québec-Amérique ». Marie, le personnage principal, se rend au chalet légué par son oncle Adrien qui, après avoir côtoyé la folie, a sauté d'une montagne près de la demeure. Peu de temps après son arrivée, Marie commence à sentir l'oppression de la forêt et à avoir des visions d'un homme qu'elle soupçonne de la traquer. Connaîtra-t-elle le même sort que son oncle? En parallèle, un voyageur venu camper dans la région sera aussi témoin de meurtres suspects, difficiles à expliquer. Tension et incertitude sur ce qui est réel sont garanties. L'auteur Larry Tremblay, plus connu pour ses histoires étranges, gâte les amateurs de personnages insolites ou plus grands que nature avec le Christ obèse et le mangeur de bicyclette, Alto. Le Christ obèse raconte l'histoire d'Edgar, un homme introverti qui ramène chez lui une victime d'une attaque dans un cimetière. cette dernière restera au lit sans quitter la maison pendant qu'Edgar la nourrira et en prendra soin. Une relation de possession et de quasi-adoration s'installe et enclenche des événements tragiques, mystiques et perturbants à souhait. Avec le mangeur de bicyclette, Larry Tremblay offre un récit abracadabrant avec des personnages colorés, la comédie rocambolesque d'un homme, Christophe, qui aime trop ardemment. Les questionnements sur le réalisme de quelques événements jonchent cet opus. Mangera-t-il vraiment une bicyclette? Un livre qui ébranle à coup sûr et qui nous laisse un peu abasourdis. L'auteur Martine Desjardins, très réputée pour ses histoires hors de l'ordinaire, crée des êtres atypiques côtoyant la fantasy et gravitant dans des environnements atypiques. Dans L'Évocation, Alto, Lily McEvoy, héritière de la seule mine de sel au Canada, prise le sel et prépare sa vengeance contre un passé qui l'obsède. Lily semble déconnectée de la réalité, ancrée dans sa mémoire biaisée, hantée par cet assaisonnement. Déconcertant. La chambre verte, Alto, présente une famille de bourgeois extrêmement avares, jusqu'à la vénération de l'argent, où les membres ont leurs secrets. Les vieilles filles s'intoxiquent à l'essence de vanille et le plus jeune ne s'intéresse aucunement aux obsessions de ses parents. Il en est même dégoûté, à leur grande âme. Manigance, plus ou moins honnête, manipulation et rituels bizarres font de ce roman une enfilade d'incrédulité. Finalement, Martine Desjardins propose sa version du mythe de la Méduse, Alto, à travers son personnage principal qui a honte de ses yeux, jusqu'à ce que cette femme découvre son pouvoir sur les autres. Dans un environnement hostile et quelque peu fantastique, Méduse cherchera à reprendre le contrôle du message. Roman puissant et déroutant. D'autres œuvres des auteurs mentionnés dans ce texte méritent également d'être explorées. Faites-vous plaisir et évadez-vous dans leurs univers hors du commun, sans être carrément magiques. Le Québec possède aussi des auteurs de fantasy et de science-fiction comme Alain Bergeron et Sylvie Bérard, pour ceux qui préfèrent une vision plus traditionnelle de l'étrange. C'était « L'étrange au Québec », un texte de Marianne Duguay paru le 3 septembre 2024 dans la revue « Les libraires ».